9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé hier, c'est la réapparition stupéfiante d'un homme, un meurtrier présumé devenu un mythe. Après 8 ans de cavale, Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté à Glasgow en Écosse, où il aurait refait sa vie sous un autre visage et une fausse identité. La journaliste Anne-Sophie Martin, qui a longuement enquêté sur cette énigme, sera avec nous dans quelques minutes. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est une nouvelle guerre dans cet Orient si proche et sous les bombes, à nouveau, des civils kurdes.
Les gens sont effrayés. Certains commencent à fuir, à rejoindre d'autres villes plus au sud. Un petit garçon de 5 ans a été blessé et transporté à l'hôpital. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Des réfugiés peut-être, personne ne sait. Le problème, c'est qu'Erdogan attaque les civils en ce moment. Pas seulement les militaires, les civils. Ce sont les victimes aujourd'hui.
100 000 personnes jetées sur les routes de l'Exode en seulement 2 jours d'offensive turque et des hommes de Daesh évadés dans la nature. Le drame humanitaire, le danger djihadiste, les intentions de la Turquie. Qui pourrait arrêter Erdogan? On en parle avec Nadim Houri, ancien de Human Rights Watch, et l'ambassadeur Marc Pierini qui a été en poste à Damas et Ankara. Le cancer islamiste en France après l'attentat de la préfecture de police. Sur Europe 1 ce matin, celui qui n'a cessé de tirer l'alarme sur le djihadisme français et la salafisation des esprits, Gilles Kepel, dans un instant. Enfin, ce qui vient d'arriver, c'est la pire semaine de Trump. Le Donald, pur produit d'une ville qui le déteste, New York. Serge Julie, qui publie un plantureux dictionnaire amoureux de New York, sera notre invité.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
C'est une guerre qui scandalise et qui tue déjà des civils. Une guerre qui tue aussi les soldats qui étaient nos alliés en première ligne dans la lutte contre Daesh et l'armée du califat. L'abandon soudain des Kurdes de Syrie par Donald Trump, le retrait des troupes américaines après un coup de fil entre Trump et Erdogan a entraîné quasi immédiatement cette offensive de l'armée turque qui a déjà jeté en 2 jours quelques 100 000 personnes sur les routes de l'Exode, d'après l'ONU. Bonjour Nadim Houri.
Bonjour.
Vous dirigez le think tank Arab Reform Initiative après avoir été le directeur du programme antiterroriste de Human Rights Watch et vous êtes en contact permanent avec les Kurdes sur place. Que vous disent vos interlocuteurs ?
Une peur, une grande anxiété. Beaucoup de gens fuient. Ils n'ont aucune confiance dans les intentions des Turcs. Ce sont aussi des villes qui, comme Kamishlil, une des plus grandes villes frontalières qui avait été jusqu'à maintenant épargnée des bombardements, des gens contraints pour la première fois depuis 2011 à fuir.
Surtout, c'est 200 000 habitants environ,
oui,
avec agglomération.
Oui, à peu près. Il y a eu en plus d'autres déplacés qui sont venus parce que c'était une ville plutôt calme. C'est une grande ville qui est directement à la frontière turque et il y a eu des bombardements. Des gens ont fui. Fuir où ? Ils descendent vers le sud, vers la province de Hasaké. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune aide humanitaire qui est présente parce que déjà, le peu d'acteurs humanitaires présents se sont retirés ou bien se sont mis en hibernation depuis le début des attaques turques. Donc, les civils se disent se tourner vers où ? Et c'est vrai qu'il y a un grand sentiment d'abandon par l'Occident, par cette annonce surprise de Donald Trump d'arrêter de soutenir les forces démocratiques syriennes et quelque part de donner le feu vert aux Turcs. Mais surtout, ce qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant, c'est quelle va être l'ambition de Erdogan. Est-ce que c'est prendre toutes ces villes ? Est-ce que c'est, comme il l'a dit à l'Assemblée générale des Nations Unies, faire venir à plus de 1 million de Syriens réfugiés de Turquie vers ces zones ? Et là, on sera en train de regarder un espèce de scénario catastrophe.
On va y venir, Nadim Houri. Peur profonde, avez-vous dit, des Kurdes sur place ? Sentiment d'abandon, de trahison, j'imagine aussi sans doute. Il faut rappeler aussi que ce nord-est syrien à la frontière turque, c'est historiquement une terre de refuge depuis un siècle.
Effectivement, c'est là où après les terribles massacres de la fin de la Première Guerre mondiale où les Arméniens, les minorités chrétiennes ont fui vers ce nord-est. Dans cette province, il y a des mémorials pour les Arméniens et les chrétiens. Donc,
Chrétiens de Turquie.
Les chrétiens de Turquie qui avaient fui et des Arméniens. Donc dans la psychologie profonde des habitants de la région, ils n'ont pas confiance dans la Turquie, notamment dans Erdogan, qu'ils décrivent comme une espèce de néo-ottoman. Et quand ils entendent des annonces de Erdogan devant l'Assemblée générale disant « je vais envoyer 1 million de réfugiés syriens qui ne viennent pas nécessairement de ces régions, qui sont d'ailleurs surtout arabes dans ces régions », il y a toute une espèce de hantise profonde où il y a. Donc les gens fuient et ils m'ont dit hier au téléphone des gens avec qui je restais quand j'étais sur place. Ils m'ont dit, on ne sait pas quand on va revenir chez nous.
Et c'est cela donc que les Turcs sont en train de conquérir. Avec nous également en ligne depuis Bruxelles, celui qui fut ambassadeur de l'Union européenne en Syrie, puis en Turquie. Bonjour Marc Pirini.
Bonjour.
Aujourd'hui chercheur à Carnegie Europe. Quel est le but ? Quels sont les buts de l'invasion turque ?
Alors, tout d'abord, c'est la continuation de ce que la Turquie a fait à l'ouest de l'Euphrate. D'abord en envahissant la zone de Jarablus et ensuite le canton d'Afrin. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la politique turque, il y a cette sorte de fantôme dans le placard qui est un Kurdistan au nord de la Syrie. Ce qui a déclenché une angoisse chez le président Erdogan, c'est qu'en juin 2015, dans les élections législatives, probablement les dernières qui étaient à peu près régulières, le parti kurde HDP est arrivé troisième. C'était la première fois qu'il se présentait en tant que parti. Et donc c'était une sorte de révolution politique. Voilà un acteur démocratique dont le parti fonctionne selon des normes européennes qui arrive en troisième position au Parlement. Donc ceci a évidemment attisé la colère de l'AKP. On a refait les élections en novembre dans des conditions très, très violentes et l'AKP a retrouvé sa majorité. Mais l'angoisse est restée.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la peur des Kurdes ou la haine des Kurdes, c'est quelque chose qui cimente la société turque et sur lequel joue aujourd'hui un Erdogan?
Je dirais qu'il y a une grande lassitude avec le PKK en Turquie, parce que c'est une insurrection qui dure depuis longtemps. Mais ce qui est fait maintenant, c'est une opération politique. Erdogan est en très grande difficulté au sein de son parti. Deux personnages vont créer chacun un nouveau parti. Et avec l'opposition qui a raflé sept grandes métropoles, dont Istanbul, dans les dernières élections municipales. Et l'économie est en berne. Donc, rassembler tout le monde, comme on l'a vu maintenant, à l'exception bien sûr du parti kurde, toute l'opposition s'est alignée sur l'opération militaire, c'est très pratique pour Erdogan. Ça met dans le placard toutes les autres revendications politiques. Ça fait passer sous le tapis le procès politique de Gezi, le fait qu'Osman Kavala est toujours en prison. Tout ceci, on n'en parle plus. Et donc Erdogan retrouve une sorte d'unité nationale ou quasi-nationale, à l'exception des Kurdes, bien sûr, c'est très pratique sur le plan intérieur. Ensuite, sur l'opération elle-même, elle est la continuation stricte des deux premières opérations, Bouclier de l'Euphrate et Rameau d'Olivier. Et c'est une opération d'abord militaire pour chasser les militants du YPG, mais c'est derrière une opération d'ingénierie ethnique où, comme on le voit à Afrin, les Kurdes sont chassés et sont remplacés par des Arabes et des Turkmènes.
Ingénierie ethnique, avez-vous dit, Marc Pirini, c'est une expression qui fait un peu froid dans le dos, Nadi Mouri. Il s'agit de redessiner les frontières et le peuplement de la région. C'est une forme de colonisation
Oui, il faut voir les résultats. Mais effectivement, c'est ça l'ambition. Ce serait retracer à nouveau les frontières, rebouger les populations. Et on sait des 40 dernières années dans le Moyen-Orient, c'est que quand on fait ça, ça ne termine jamais bien. Possiblement, pour des raisons électorales, pour des raisons politiques, peut-être que Erdogan est en train de semer les graines de futurs conflits qui vont pas simplement durer un an ou deux ans, mais qui vont durer potentiellement des dizaines d'années. Aussi, je pense, effectivement, c'est une continuation d'une stratégie turque qu'on a vue donc à Afrin et à l'ouest, mais avec une différence essentielle. C'est que les autres régions, ce que les Occidentaux avaient dit aux Turcs, c'est que Afrin, on l'a pas libéré avec vous. Les autres régions, on les a pas libérées avec vous. Donc, on peut pas vous aider, mais on vous garantit. Moi, j'étais dans le Nord-Est quand j'ai entendu cela d'officiels kurdes, que l'Occident leur avait dit, les zones qu'on a libérées ensemble de Daesh ne seront pas attaquées par la Turquie. Ça, c'est pas un discours qu'on a entendu il y a très longtemps. C'était déjà il y a un an et demi. Donc, aujourd'hui, il y a aussi ce côté un petit peu de géopolitique. Effectivement, il y a les calculs électoraux de Erdogan et les calculs électoraux de Trump, qui est aussi en grande difficulté. Et malheureusement, les grands absents, ce sont les Européens, qui sont aujourd'hui limités à sortir comme le président français, ils n'arrivent pas à convaincre le Conseil de sécurité, et ils sont limités à des tweets sur Twitter.
Et ils sont en désaccord entre eux, on va en parler dans un instant, de même que de la question des djihadistes détenus par les Kurdes. Vous restez avec nous, Marc Pirini et Nadi Mouri, à tout de suite.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec Nadim Ouri, directeur de Arab Reform Initiative, et l'ambassadeur Marc Pirini. Nadim Ouri, il y a environ 2000, chiffres souvent cités, je ne sais pas s'il est vrai, 2000 djihadistes étrangers détenus dans les prisons tenues par les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire pour l'essentiel les forces kurdes. Que vont-ils devenir ?
On ne sait pas. On ne sait pas, et ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on sonne l'alarme en disant que la situation est intenable. Il faut savoir qu'il y a à peu près 11 000 djihadistes, toutes nationalités confondues, dont des Syriens et des Irakiens. À peu près, on dit, entre 2 000 et 3 000 étrangers. Les Américains ont déjà repris donc, les deux fameux Britanniques des Beatles. Ils les ont sortis, on ne sait pas vers où. Ainsi qu'une vingtaine d'autres, ce qu'ils appellent des high-value detainees, des gens assez importants dans l'organisation. On n'a aucune idée de ce qui se passe des restes. Vendredi, il y a eu 5 djihadistes qui ont fui d'une prison près de Kamishli. On ne connaît pas leur nationalité, c'est probablement des Syriens, mais on n'est pas sûr. Et il y a aussi surtout la question des 11 000 femmes et enfants étrangères, aussi étrangers et étrangères, dont on ne connaît pas le sort non plus. Et là aussi, l'Europe est inaudible sur ces questions. On a du mal à imaginer que ça va être une priorité des Kurdes de continuer à détenir tout ce monde-là sans quid pro quo, sans soutien international. Ils vont aller où ? On ne sait pas. La Turquie, Erdogan dit « ça va être ma responsabilité ». On a du mal à imaginer les forces donc, démocratiques syriennes attendre à la porte de la prison pour donner les clés aux forces turques.
Avec le risque, évidemment, sinon d'une reconstitution du califat, du moins d'un regroupement des soldats de Daesh dans la région. Oui,
oui, effectivement, on ne peut pas vraiment parler de reconstruction de califat, ils n'ont plus la force. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une force nuisible encore très importante. On l'a vu, il y a eu des attaques à la voiture piégée ces 3 derniers jours. Et il y a même eu des tentatives de fuite du camp Al-Hol, le camp principal où il y a les femmes et les enfants étrangers, où cette espèce de chaos profite à des mouvements et à des familles djihadistes qui aimeraient rejoindre l'État islamique.
Marc Pirini, est-ce qu'on peut dire qu'entre les islamistes modérés, c'est comme ça qu'on les appelle, qui gouvernent la Turquie, et les islamistes radicaux qui composent l'État islamique, il y a eu des connexions, des connivences ou des complicités, voire des actions communes ?
Il y a certainement eu dans le passé une certaine bienveillance du gouvernement turc envers l'État islamique. Il faut se rappeler qu'au début de la coalition anti-ISIS, ça a pris 1 an aux Américains pour convaincre les Turcs de leur laisser opérer à partir de la base d'Incirlik près d'Adana. Une année entière de négociations qui a évidemment ralenti les opérations. Donc il y a idéologiquement dans une partie de la coalition au pouvoir en Turquie, il y a une certaine sympathie. Bien, ceci étant, ils ont eux-mêmes souffert de l'État islamique, ça ne fait aucun doute. Mais le discours qui aujourd'hui, hier encore, le ministre des Affaires étrangères turc, consiste à dire « nous avons été les premiers à lutter contre l'État islamique », ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une reconstruction à posteriori. Maintenant, il faut voir que l'opération actuelle, telle qu'elle est conduite, elle est conduite sur une largeur de 100 km sur les 300 km qui vont de l'Euphrate à Kamishli. Et encore, c'est à partir de deux villes, Tel Abyad et Deir al-Salahin, où les forces turques se déploient très prudemment de part et d'autre du point d'entrée, à l'est et à l'ouest, et sur une profondeur qui n'a pas encore atteint 10 km. Alors que l'objectif déclaré, c'est 30 km, c'est-à-dire l'autoroute M4. Donc l'opération est extrêmement prudente, parce qu'elle est très risquée, bien sûr, et parce que la Turquie se trouve confrontée à une levée de boucliers de l'ensemble des pays occidentaux, avec bien sûr l'ambiguïté habituelle du président Trump.
Mais qui peut déboucher sur quoi, Marc Pirini ? Quelle est la marge de manœuvre des Occidentaux ? On a vu même hier encore des Européens incapables de s'entendre seulement sur des sanctions contre la Turquie.
Oui. Alors, la marge de manœuvre, elle est très simple. C'est qu'il faut arriver à limiter l'opération turque au strict minimum. C'est-à-dire, il n'est pas question de laisser la Turquie occuper un périmètre de 32 km par 300. C'est gigantesque et ça va amener à des conflits permanents pour des années ou des décennies. Donc, ça, ce n'est pas possible. Ceci étant, il faut arriver aussi à inclure dans le dialogue le gouvernement de Damas, ou en tout cas à travers la Russie, le gouvernement de Damas. Et on va se retrouver dans une négociation nécessairement politique. La chose la plus surprenante, c'est qu'au Conseil de sécurité, ces jours-ci, le débat a débouché sur des États-Unis qui se mettent du côté de la Russie pour mettre un veto à une résolution condamnant l'invasion. C'est absolument hallucinant. Une fois de plus, Trump est du côté de la Russie. Bien. Mais ceci étant, l'administration de Trump est un peu plus subtile que le président et elle parle elle aussi de sanctions. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est le Conseil européen cette semaine, qui en principe devait d'abord parler du Brexit, mais il va bien être obligé de parler de la Syrie.
Merci beaucoup Marc Pierini et merci à Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, qui a permis ce duplex. Merci beaucoup Nadim Houri, directeur de Arab Reform Initiative. Merci de nous avoir éclairés. Dans un instant, le mystère du pont de Ligonnès, la journaliste Anne-Sophie Martin avec nous.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1, vous écoutez, c'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Le dimanche 3 avril 2011, peu après 22h30, Xavier Dupont de Ligonnès laisse un message sur le répondeur téléphonique de sa sœur Christine pour lui dire qu'il est allé au cinéma, puis au restaurant, en famille, avant de conclure ainsi.
Voilà, ben ça va, si je sais pas trop tard, tu m'en dis, ou tu m'envoies un petit SMS, et quand là, je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être.
Je vais coucher les enfants, je t'embrasse, dit Dupont de Ligonnès, qu'on entend très naturel et décontracté. D'après les enquêteurs, c'est ce soir-là ou cette nuit-là que les 5 autres membres de la famille, sa femme Agnès et leurs 4 enfants âgés de 13 à 21 ans, ont été assassinés. Bonjour Anne-Sophie Martin.
Bonjour Patrick.
Journaliste et documentariste, vous avez passé beaucoup de temps à cerner cette énigme criminelle hors norme, notamment pour un livre paru il y a 3 ans, Le Disparu, pour lequel vous êtes plongé dans la masse considérable de lettres, de mails, de messages laissés derrière lui par Dupont de Ligonnès, mais qu'il a tenté d'écraser, d'effacer avant sa fuite. Qu'est-ce que ça dit du personnage ?
C'est simple, au départ, ce projet de livre, je l'appelais le scribe. C'est vous dire qu'il y a une quantité absolument phénoménale, très rare dans une histoire criminelle, d'ailleurs, de la part de l'auteur, en tout cas celui qui est le suspect numéro un. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit quelqu'un qui a besoin beaucoup de parler, beaucoup d'écrire, et c'est vertigineux, puisque cette cavale qui dure depuis 8 ans, si c'est bien lui qui est arrêté à Glasgow, c'est le silence total, quoi. Et on sentait bien que dans ses écrits, dans ses échanges, il parlait de tout avec tout le monde. Et ça veut dire que maintenant, il est quand même, dans cette cavale, réduit au silence par rapport à tout ça. Il a essayé de tout détruire. Bon, des internautes, des geeks ont réussi à exhumer ce qu'il avait tenté de détruire, toutes les données d'ailleurs, des photos, des documents.
Il se confie beaucoup, il écrit beaucoup, il
se
vend beaucoup. Bien.
Il écrit très bien, il écrit bien, surtout.
Il se confie beaucoup et d'après vous, il a écrit pour tuer.
Alors, il n'a pas vraiment écrit pour tuer, mais c'est vrai que se dessine au fil des écrits une situation catastrophique, une situation personnelle, sociale, même ce qu'on appelle l'estime de soi qui commence à dangereusement disparaître, et une situation par rapport à laquelle, si vous voulez, il n'a plus de solution. Il l'écrit très clairement, soit je me balance sous un camion avec ma voiture et Agnès touchera l'assurance et voilà, soit je
mets le feu à la baraque quand tout le monde dort
et voilà. Je drogue tout le monde, voilà. C'est ça qui réussit.
Je souhaite même, c'est un courriel d'un an avant le drame à peu près, je souhaite que même après enquête de police on ne puisse jamais laisser croire à mes parents que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. C'est tous les caractéristiques de la préméditation, de l'organisation minutieuse qu'il dessine.
En tout cas, d'une idée assez aboutie. Je ne sais pas si ça participe de la préméditation. Je ne sais pas quand le passage à l'acte. On a remonté quelques jours auparavant, si vous voulez, notamment l'achat du matériel qui aurait servi à ensevelir les corps. Mais
et puis les lettres à l'école. Voilà, enfin, ça, il organise après, toute la ça, disparition.
Oui. Voilà, l'après-disparition est extrêmement organisée. L'avant, la préméditation est établie, mais est-ce qu'on peut considérer ces mails ? Pour moi, c'est il s'installe dans une situation psychologique, où il, finalement, il n'arrête pas d'envisager cette situation. Elle, elle finira par s'imposer à lui, mais quelque part, il n'en peut plus et il commence à le dire à plusieurs personnes et de plusieurs façons, en donnant des précisions qu'on va retrouver dans l'exécution, dans les exécutions d'ailleurs des membres de la famille. C'est ce qui est extrêmement troublant. C'est effectivement, du coup, à la fin, mais on peut le faire rétrospectivement, il a écrit le scénario de ce qui s'est passé.
Vous l'imaginez dans votre livre, parce que c'est une reconstitution romanesque, votre livre, avec à la base ces documents authentiques. Vous l'imaginez tout reprendre à zéro, une sorte de coup d'ardoise magique sur sa propre vie.
Oui. Alors ça, faudra demander au psychiatre comment ça se passe, mais bon, c'est quand même forcément quelqu'un de très clivé. Hein. C'est quelqu'un qui a nourri quand même une frustration, sans doute une souffrance d'ailleurs aussi pendant très longtemps.
Hein, et sans rien n'en laisser paraître société qu'il fréquente et dans son entourage.
Et voilà, et en faisant bonne figure et en faisant le père de famille comblé à ses arrivées. D'ailleurs, les gens, quand je me souviens d'être allé boulevard Schumann, les gens alentour, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. C'était un homme d'affaires, mais quoi ? C'était quand même assez mystérieux. Donc, c'est pas du tout Jean-Claude Roman ou c'est un mythomane qui invente et qui escroque. C'est juste quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. Et en fait, il peut comme ça cultiver une espèce de secret personnel. Et on sait qu'il est sur les routes 4 jours par semaine, mais il est assez insaisissable. Mmh. Et le pire, c'est qu'il l'est encore aujourd'hui.
Jean-Claude Roman n'apparaissait pas comme un homme épanoui, alors que sur toutes les photos de famille qui défilent sur tous les écrans depuis hier soir, 21h, on voit un type souriant, entouré de sa progéniture,
avec un
de
regard
sa femme.
Presque doux, avec des étreintes. C'est quand même un milieu, c'est la vieille noblesse française. Hein, c'est pas parfois on met des gants pour se toucher. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, lui, quand on voit les étreintes avec ses enfants, sont assez poignantes parce qu'elles sont authentiques. Alors on se dit c'est d'autant plus fou. C'était un papa poule.
Et en fait, ces retrouvailles, cette arrestation ne fait qu'épaissir le mystère. Évidemment, on ne va pas lister toutes les questions qui s'ouvrent devant nous et qui sont vertigineuses. La première, c'est évidemment comment on peut passer 8 ans en cavale sans soutien, sans argent, sans financement, sans complicité.
Alors moi, c'est quelque chose qui je suis pas d'accord avec tout le monde depuis le début. C'est-à-dire que je dis, on a des représentations qui sont des clichés. On se dit oui, puisque Alfred Sirven, il lui fallait beaucoup d'argent pour aller aux Philippines. Eh bien, tout le monde, c'est pareil. Et ça ne correspond pas justement à la psychologie de ce personnage. Il a toujours vécu, il s'est toujours bien débrouillé quand il allait aux États-Unis se balader pendant des mois, à trouver qui lui payait à manger, qui l'hébergeait, etc. Faut quand même imaginer ça. Il y a une espèce de côté scout chez lui. Hein. Donc voilà, on est dans la débrouillardise. Et puis il y a surtout quelqu'un qui n'a besoin de rien pour vivre. Un jean, une chemise est terminé. De presque rien, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un train de vie important. Il n'a aucun goût de luxe. Et ouais. Ça, tout le monde me l'a dit au début. Et du coup, j'ai compris que le type peut se fondre dans la foule. Il faut un peu d'argent, mais après on peut rencontrer des gens. Oui. Comme il est très liant, très sociable, etc., il a pu très bien, depuis,
vivre
trouver des aides.
Vivre au crochet d'autres personnes.
Bien sûr.
Personnes.
D'ailleurs, c'est ce que ses amis envisageaient aussi.
En tout cas, une certitude, c'est qu'il n'avait pas mis d'argent de côté.
Pas une certitude, mais on ne connaît pas de cagnotte. Il n'avait plus d'argent. Mais comme il se suffit de peu, il pouvait avoir un petit pécule pour démarrer, si je puis dire. Enfin, on est un peu dans la fiction, là, mais faut pas se tromper sur le personnage. Il n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Et donc, ce n'est pas une cavale ruineuse. Les réseaux, l'argent, etc., il n'a pas besoin de beaucoup. Et comme c'est quelqu'un qui est très séducteur et très convaincant, ça, tout le monde le disait, et qui a une idée par minute, il a pu embarquer dans sa nouvelle vie, effectivement, des femmes, des hommes, voilà.
Bon, en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez imaginé. On ne va pas poursuivre les spéculations et la liste des questions. J'espère qu'on, évidemment, beaucoup de ceux qui nous écoutent espèrent avoir les réponses à ces questions, à cette énigme. Merci beaucoup Anne-Sophie Martin. Je rappelle votre livre toujours éclairant, même si la fin reste à écrire ou à réécrire, Le Disparu aux éditions Ring. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, Gilles Kepel nous parle des leçons à tenir après l'attentat de la préfecture de police de Paris. À tout de suite.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine, se poursuit avec vous Patrick Cohen.
Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Vous dirigez la chaire Moyen-Orient Méditerranée à Normal Sup, dernier livre paru, Sortir du chaos, des policiers trahis et assassiné par l'un des leurs au sein même du service chargé de la lutte contre l'islamisme radical. Au-delà du drame humain, comment expliquer un tel échec, un tel aveuglement? Est-ce que vous y voyez, vous, un échec français?
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un échec spécifiquement français, parce qu'on est confronté dans toute l'Europe occidentale aujourd'hui à une transformation du modèle djihadiste. On n'est plus dans ce qui était la logique de Daesh, avec des coordinations montées depuis Raqqa, qui instruisaient par exemple des jeunes femmes de déposer des bombes dans une voiture, comme le procès est actuellement en cours au palais de justice. Mais on a des individus qui finalement sont mis en condition par un environnement. Un environnement qui n'est plus seulement un environnement terroriste au sens propre, mais qui passe par la rupture culturelle portée par des prêches salafistes, par cette espèce d'écosystème et cette espèce de déconstruction lente peut toucher, jusque j'ai y compris, doucement, des individus comme celui qui est inséminé aujourd'hui.
Mais vous parlez d'un environnement salafiste. Comment on passe du salafisme au djihadisme? Et quelle est donc cette idéologie qui peut pousser un homme à assassiner non pas des inconnus ou des personnalités comme à Charlie Hebdo, mais des gens, des collègues avec qui il travaille depuis 15 ans?
Alors, ce qu'on remarque quand même, c'est que les individus qui sont en cause, je parle évidemment du meurtrier de la préfecture, mais j'ai été très frappé du fait que ce meurtre se produit exactement pendant les audiences du procès des femmes terroristes du 4 septembre 2016.
À Notre-Dame.
Il y avait aussi, exactement, à 50 mètres de la préfecture d'un côté, et le palais de justice qui est à 50 mètres de l'autre côté, et le jour où il y a eu le crime à la préfecture, on venait justement de traiter de l'attaque au couteau de l'autre côté. Autant qu'on le sache, sauf démenti, Michael Harpon n'a pas reçu d'instruction. Il n'avait pas un manipulateur comme Rachid Kassem à l'époque de Daesh pour agir. C'est une mise en condition qui, petit à petit, va permettre cette espèce de désinhibition sociale du passage à l'acte. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille aujourd'hui, pour lequel on n'a pas véritablement anticipé les enjeux.
Le salafisme, Gilles Kepel, qui continue de s'étendre dans les banlieues, reste, à vos yeux, un carburant du djihadisme?
Alors, tout salafiste ne passe pas à l'acte,
non,
bien évidemment. Et il ne s'agit pas d'une incrimination juridique, on ne peut pas le faire. Mais cela crée une culture de la rupture culturelle, si j'ose dire, entre la société française et ceux qui sont devenus les adeptes de cette doctrine. Et ça, ça pose un énorme problème dans l'avenir de notre société. Est-ce qu'une société comme la nôtre peut considérer qu'elle est faite simplement de communautés juxtaposées pour lesquelles le lien social, finalement, est minimal? C'est simplement le fait d'avoir des relations sur un même territoire. Ou est-ce qu'au contraire, il faut avoir une exigence plus grande pour le vivre ensemble et le pacte social? Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus grave que le simple enjeu policier. C'est une question que notre société, aujourd'hui, a beaucoup de mal à se poser.
La France doit changer de doctrine, de méthode et de façon d'appréhender ce phénomène, à votre avis, Gilles Kepel?
Je crois qu'on s'est exagérément focalisé sur cette espèce de concept fourre-tout qu'est la radicalisation, entre guillemets. Il fallait détecter les signes de radicalisation et autres. Or, c'est beaucoup plus qu'un signe, c'est tout un processus qui se met en place. Évidemment, c'est un enjeu beaucoup plus important. C'est une réflexion sur ce qui se passe dans ce que notre collègue, le professeur Rougier, appelle les territoires conquis par l'islamisme. Et tout ça, bien sûr, ça demande une réflexion sur les responsabilités des uns et des autres, d'un certain nombre d'élus qui ferment les yeux parce que ils pensent à leur réélection, etc. Comment est-ce que les intérêts particuliers des uns et des autres finalement apparaissent en conflit avec l'intérêt supérieur de la société? Ce sont des enjeux très importants. Je ne suis pas sûr
que cette réflexion ait été menée, parce qu'après tout, ce n'est pas une réflexion qui concerne exclusivement l'ordre public, c'est une réflexion de fond sur ce qui est en train de devenir la société française dans son environnement.
Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été en ligne avec nous depuis l'étranger et d'avoir pris quelques minutes. La ligne n'est pas fameuse, mais c'était très intéressant de vous entendre. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, New York, la ville la plus fascinante du monde, vue par un journaliste fasciné et amoureux, Serge Julie.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1. Le samedi de 9h à 10h sur Europe 1, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine.
Bonjour Serge Julie.
Bonjour.
Vous publiez chez Plomb un copieux dictionnaire amoureux de New York où vous nous racontez des destins, des histoires, des rues, des livres, des musiques, des films. New York, c'est la ville de Sinatra, de Woody Allen, de Scorsese, de Niro, de Paul Auster et de Donald Trump. C'est sans doute l'entrée la moins amoureuse de votre dictionnaire. Trump, c'est aussi l'un des visages de New York.
Absolument. C'est l'un des visages, d'ailleurs, si j'ose dire, les plus importants, parce qu'il incarne ce business qui est l'immobilier. Or, la matière, si j'ose dire, première de New York, celle qui est la plus travaillée, celle qui rapporte le plus à New York, c'est quand même l'immobilier. Et l'homme de l'immobilier, c'est lui. Et d'accord. 80%, je crois, des New-Yorkais ont voté contre lui, évidemment à l'élection présidentielle, mais il est parfaitement New-Yorkais. Et d'ailleurs, quand on prend les images de Trump sur les 30 dernières années, il apparaît dans très nombreux films, des séries, oui. etc. Il est tout le temps une figure, il est là toutes les soirées à New York, il est un personnage de New York, au même titre que beaucoup d'autres, mais c'était un personnage de New York très enraciné dans cette ville, parce que l'immobilier, c'est au cœur.
Avec la fierté d'avoir une tour plus haute que celle des autres, il y a cette histoire extraordinaire là, que vous rappelez dans votre,
oui,
dans votre livre.
Oui, sur 2001, sur le World Trade Center. C'est-à-dire, c'est le Washington Post qui a fait cette recherche, qui était de comment les gens les plus connus ont réagi quand le World Trade Center s'effondre. Et alors on demande à Trump, donc c'est vraiment ce qu'il a déclaré en 2001, pas 20 ans après. Donc qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, j'avais une tour au 40 Wall Street, qui était la deuxième tour la plus haute de New York. Aujourd'hui, elle est la première.
Incroyable. Il s'appelle Donald, concluez-vous, mais c'est Oncle Picsou.
Alors, oui, il lui ressemble beaucoup la coiffure.
Aussi, oui, c'est vrai. Mais Oncle Picsou est plus gentil. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs de gosse. Même s'il a beaucoup de défauts. Vous êtes un Parisien, Serge Julie, né dans la reine des villes horizontales, mais vous aimez éperdument vous perdre dans la verticalité de New York. Un monde unique, écrivez-vous, aussi généreux et tolérant qu'il est injuste et cruel. C'est la ville des paradoxes, hein, New York.
Absolument. C'est tout et son contraire. C'est la démesure dans le paradoxe. Alors ça tient à mille choses. C'est la seule ville au monde où tous les étrangers se sentent à l'aise. Pourquoi? Parce que elle est peuplée d'étrangers. Alors d'abord, c'est son histoire, comment elle a été constituée par des émigrations successives et qui se poursuivent. Hein, il faut avoir en tête que l'année de la plus forte migration, c'est pas 1920, c'est 1991. Il y a eu 1,5 million de migrants qui sont arrivés à New York. Donc le nombre de clandestins est entre 500 000 et 1 million.
C'est une ville métisse.
C'est une ville. Il y a 30% des New-Yorkais qu'on peut interviewer ont des parents qui sont nés à New York. Mais 70% sont des primo-arrivants à une époque ou à une autre. Donc, l'autre, comme ça, c'est des chiffres, mais c'est très évocateur. C'est la capitale mondiale des célibataires. Il y a 5 millions de célibataires, hein, hommes et femmes, sur 8 millions d'habitants. c'est comme disait Baudrillard, les couples peuvent pas exister à New York parce que chacun est pris dans des histoires multiples, des opportunités multiples. Donc on n'est pas du tout dans la famille qu'on coucoune à New York. Donc c'est pas ça. C'est une ville de combat.
C'est une ville à la fois, c'est la ville des milliardaires et c'est la ville du tiers-monde.
Il y a 100 milliardaires, 100 milliardaires en dollars à New York,
oui.
Mais il y a 400 000 millionnaires. C'est une concentration de richesses au monde invraisemblable. Si Manhattan prenait son indépendance, était un pays, ça serait la 20e puissance économique du monde.
Ce qui est une idée régulièrement agitée, d'ailleurs, on le découvre dans votre livre, Paul Auster et d'autres ont milité pour l'indépendance.
Marcel Duchamp,
pour l'indépendance de
Norman Mailer, ont tous milité sous des formes différentes depuis le début du XXe siècle pour l'indépendance de New York. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui ne ressemble pas du tout à l'Amérique, mais qui ne ressemble pas du tout à quoi que ce soit dans le monde.
Alors, il y a dans votre livre, Serge Julie, des musiciens, des chanteurs, des écrivains, des personnages historiques, de la nourriture, évidemment, entrée hot dog, entrée pizza, des rues, des quartiers. Qu'est-ce qui, dans tout cela, vous rend amoureux de New York ? Qu'est-ce qui vous fait dire, à chaque visite, c'est une ville où je pourrais vivre ?
Alors, d'abord, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que on n'est pas regardé comme quelqu'un de spécial. Tout le monde est spécial à New York. Voilà. Donc j'aime l'exagération de cette ville. Tout est exagéré, tout est démesuré. Il n'y a pas que les immeubles qui sont très grands. Il y a les déviations, les marges, sont énormes les marges. Voilà, et on trouve des boîtes, des musiciens, des choses. Voilà, je prends toujours l'exemple qui est comme ça très parlant. Le hip-hop, ça naît dans le Bronx. Il y a le blackout, c'est-à-dire la panne électrique, comme ça pendant plusieurs dizaines d'heures. Tout le monde vous explique à New York, en particulier dans le milieu musical, que c'est ça qui a permis le développement du hip-hop. Pourquoi ? Parce que personne n'avait les moyens de se payer des platines, des amplis, etc. Personne. Il y en avait quatre dans le Bronx en tout et pour tout avant le. Ils ont pillé tous les magasins d'électronique. D'électronique. Le hip-hop a pu se développer. Ouais. Voilà, ça, c'est aussi New York. Je dis pas que c'est bien. Ouais. Voilà,
et très vite, qu'est-ce que vous détestez qui vous fait dire « je pourrais pas y vivre très longtemps, finalement
». Au bout d'un moment, je craque, parce que c'est une ville qui est hurlante. Ouais. Elle n'est pas bruyante, elle est hurlante. Les gens ne se parlent pas, ils se crient. Quand on est dans un restaurant, tout le monde crie. Voilà, donc au bout d'un moment, les métros font un bruit. Les métros sont très anciens, très peu modernisés, si on compare par rapport à la France, par exemple. Et ça fait un bruit d'enfer. Donc oui, il y a des choses qui sont... Mais c'est un mélange magique. C'est envoûtant, New York.
Dictionnaire amoureux de New York, Serge Julie, ça vient de paraître chez Plomb. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Europe 1. Et le dictionnaire amoureux de la politique, il se feuillette chaque samedi matin avec Olivier Duhamel dans Mediapolis. Bonjour Olivier.
Bonjour Patrick Cohen. Alors notre invité n'est pas hurlant comme Serge Julie, mais plus exactement, il l'est avec sa plume. C'est François Sureau, sans la liberté, qui va décortiquer l'actualité médiapolitique avec nous.
A tout de suite, excellente journée à l'écoute d'Europe 1 et à demain 9h10.